Bonsoir à vous tous. Normalement, quand on mange, on demande à tout le monde de venir à table. Et imaginez qu'il y a un des adolescents qui reste dans sa chambre et qui dit « Bon, amenez-moi mon assiette. » On lui dira peut-être « Faut que tu viennes à table pour manger. » Et le fait que vous soyez là, c'est qu'il y a un certain désir de manger de la parole de Dieu. J'espère que nous tous ne repartirons pas sans avoir reçu quelque chose du Seigneur. Alors, les enfants, quel est le texte de ce soir? Il y en a quatre qui le savent, au moins. Ils ont peur de le dire. C'est Apocalypse de Jean et le chapitre 1. Et le thème ce soir, voici il vient. C'est les versets 7 et 8, mais on va reprendre au verset 4. Donc Apocalypse chapitre 1, verset 4, écoutez la parole de Dieu. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part. Et maintenant, il y a une bénédiction trinitaire de la part d'abord de celui qui est, qui était et qui vient. Une référence à Dieu le Père, ça reviendra dans notre texte. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Une référence donc au Saint-Esprit. Ce numéro 7 se trouve pas mal de fois dans ce livre, pour parler d'une totalité. Et, troisièmement, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Et puis, cet appel à l'adorer. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on pourrait se poser la question, eh bien, quand est-ce qu'on verra vraiment sa gloire et sa puissance? Eh bien, regardez le verset 7, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ce que nous avons lu est sans erreur. Est véritable, c'est la parole de Dieu. Alors là, le message de ce texte, c'est que Jésus revient. Et dans une opéra, où souvent au début ils vont jouer, et le nom m'échappe, ouverture je crois c'est le mot. Une ouverture, et dans cette ouverture, il y a tous les thèmes qu'on va retrouver plus tard dans l'opéra. Donc, c'est juste des petites vignettes, en fait, de tous les thèmes qu'on retrouvera plus tard. Et dans un sens, ce que nous lisons dans ces versets, c'est exactement cela. C'est quelque chose qui va développer avec beaucoup de détails, même plus tard dans le livre, mais nous avons une vignette, un résumé, une ouverture à la suite, quand il dit tout simplement, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors nous avons d'abord donc l'annonce de sa venue. L'annonce de sa venue. Il dit au verset 7, « Voici, il vient. Voici, il vient. Alors, c'est qui le il? Il vient avec des nuées. C'est qui le il? Alors, je vous propose de lire en Daniel chapitre 7. En fait, qui pourra nous lire Daniel 7, versets 13 et 14? Il y a quelqu'un qui peut lire très fort ces deux versets? Je cherche une main levée. Ok, oui, Jérémy. Et puis, quelqu'un d'autre tout à l'heure en Matthieu 26, à partir du verset 59 jusqu'à 63. Quelqu'un pourra lire ça? Matthieu 26? Ok, Ebi. Ok, lisons d'abord donc en Daniel 7, versets 13 et 14. Ok, donc selon ce texte, quel est le titre donné à celui qui vient? Il dit « Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un ». Et quel est le titre qui lui est donné? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Ok, lisons en Matthieu chapitre 26. Là, nous sommes dans un des... Il y avait six, en fait... jugement du Christ avant sa crucifixion. Mais lisons donc depuis le verset 59, en fait jusqu'au verset 65, Ibi, s'il te plaît. Voilà, donc il a bien compris hein, ce que Jésus disait de lui-même. Il n'a pas accepté, mais il a bien compris. Et notez le lien que Jésus fait avec le Christ au verset 63. Il dit, « Dis-nous si tu es le Christ ou le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus accepte. Il accepte ces titres en disant, oui, tu l'as dit. Donc, il accepte qu'il se voit lui-même comme le Christ, le Fils de Dieu. Et puis, il ajoute donc un autre titre quand il dit « Vous verrez ». Et ça aussi, c'est important. « Vous verrez », parce qu'on va voir, ça se retrouve en Apocalypse. « Tout œil le verra », même ceux qui l'ont percé. Et il dit « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et vous savez, j'imagine que le titre préféré de Jésus pour lui-même, quand il parlait de lui-même, c'était ce titre pris de Daniel, le titre de Fils de l'homme. Un titre, en fait, exalté, qui parlait, les Juifs acceptaient que ça devait parler de Dieu, mais appelé Fils de l'homme. Et il dit, vous le verrez venant sur les nuées. Sa venue est certaine. Sa venue est certaine. Nous voyons que donc l'identité, c'est Jésus. Nous voyons qu'elle est certaine. Il dit, il vient. Et elle est proche aussi. C'est dans le temps présent. C'est comme s'il dit, il est en train de venir. En train de venir. Et Jésus est celui qui est venu. Il est venu. Mais il est aussi celui qui qu'il est en train de revenir. Il revient. Il revient. Et puis, il y a deuxièmement, donc, ça c'est donc, ça, l'annonce, et puis il y a la gloire de sa venue. Et je crois que ceci est souligné par cette référence aux nuées. Verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. » Alors, dans l'Apocalypse, il y a des centaines de références ou allusions à l'Ancien Testament. Presque tout le monde qui l'a étudié et dit que c'est dans notre Nouveau Testament, c'est le livre qui a le plus le goût de l'Ancien Testament. En le lisant, c'est comme si on lisait presque des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de références donc à l'Ancien Testament. Pour bien connaître Apocalypse, il faut connaître aussi son Ancien Testament. Et quand vous pensez à la nuée, un symbole dans l'Ancien Testament, à quoi vous pensez? Ok, les enfants, exactement. En Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de quoi? De nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, cette colonne de nuée représentait quoi? La présence de Dieu parmi eux. Bien sûr, Dieu est un esprit, il est invisible, mais il représentait visuellement sa présence par cette nuée. En Exode chapitre 16 et versets 9 et 10, Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent, pluriel, du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Donc, quelle est associée à la nuée? C'est la présence, mais ici, ça dit la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est apparue dans la nuée. Quand ils voyaient la nuée, on voyait un aspect de la gloire de Dieu. Il y avait eu quelque chose qui a dû les terrifier, parce que là, ils viennent de murmurer. Et Dieu les approche dans cette nuée, et il reconnaît sa gloire. Donc c'est à ça que nous devons penser, la gloire, sa présence, quand nous pensons à la nuée. Un peu plus tard, en Exode, chapitre 33, versets 8 et 9, lorsque Moïse se rendait à la tente, donc le tabernacle, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Imaginez, vous regardez, il y a Moïse, peut-être très très loin même, et vous voyez qu'il entre dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa propre tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Quel est le signe visuel que l'Éternel est proche à Moïse ou que Moïse est proche à l'Éternel et que l'Éternel va lui parler? C'est parce que quand il rentre dans la tente, la nuée descend jusqu'à l'entrée. C'est le signe de sa présence, de sa gloire et de sa communion avec Moïse. Alors, comment est-ce que Jésus est parti de ce monde? Rappelez-vous, Acte 1, verset 9, oui, il nous dit qu'il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Je ne pense pas que c'est parce que il y avait beaucoup de nuages ce jour-là, donc il est parti un peu dans les nuages. C'est une nuée qui va le recouvrir. Et ceux qui vont voir partir, Il ne voit plus le corps parce qu'il est dans la nuée. Il voit la nuée qui se lève. Et voici, il vient dans la nuée. Matthieu 24, 30 dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. » Encore, ça c'est Jésus qui parle. Il utilise encore ce titre. « Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Là aussi, un lien. La nuée avec puissance et une grande gloire. Donc ça c'est la gloire de sa venue. Quand il arrive, quand il est arrivé la première fois, il est arrivé en humilité. Quand on pense à Noël, on pense à l'humilité du Fils de Dieu. Il vient, il est né dans une étable. Certains bergers le savent, mais d'autres l'ignorent. Mais quand il revient en gloire. En gloire. Puis troisièmement, regardons les témoins de sa venue. Qui va le voir venir? C'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Vous voyez ça au verset 7? Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Nous voyons qu'il y a le monde entier, en fait. Va le voir, il n'y aura rien de secret concernant la deuxième venue de Christ. C'est pour ça qu'on sait que ça ne s'est pas encore produit, parce que quand ça se produit, il n'y aura pas de doute. D'ailleurs, Jésus dit, je reprends les paroles de Jésus en Matthieu 24, versets 25 à 27. Jésus dit, il dit ceci, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. » Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Tout le monde le saura, ça sera clair. Quand il viendra, tout le monde saura, on saura tout autour du globe sa venue. Mais surtout, il fait allusion à qui ici? Il dit « Tout œil le verra ». Mais après, il fait allusion à qui au verset 7? Ceux qui l'ont percé. Je crois que c'est une référence aux Juifs, et je crois que c'est une référence aux Juifs à cause d'une prophétie. Vous savez, il y a une prophétie par rapport à cela. Ceux qui l'ont percé, c'est en quel livre? C'est en Zacharie, chapitre 12 et verset 10. Je vais vous lire... ce verset, alors, c'est Dieu qui parle, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. » C'est intéressant que c'est Dieu qui parle, ça c'est dans l'Ancien Testament. Il dit, « Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé. » Alors, c'est difficile de lire l'Ancien Testament et de donner une autre explication que la crucifixion de Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous savez, on ne va pas le lire, mais en Ésaïe chapitre 53, vous connaissez bien ce chapitre. Qui parle de Christ et qui dit « Pourtant, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Tout ce texte est en fait une prophétie parce que c'est qui parle? Nous n'avons fait de lui aucun cas, nous l'avons dédaigné, pourtant il a porté nos souffrances. C'est qui parle en Ésaïe 53? C'est ces Juifs qui se repentent, qui finalement, ils regardent et ils voient, ils comprennent. Et donc, Ésaïe 53, on dit, bon, c'est une prophétie de Jésus. Ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est une prophétie de ce que diront les Juifs à la fin de temps de Jésus. Et relisez après Ésaïe 53 avec cela en tête, que c'est les Juifs, quand ils viendront à Christ, quand il reviendra, et ils vont, ça sera leur confession. Et on le voit ici, donc, en Zacharie, que Dieu va, donc, déverser un esprit de grâce et de supplication, ils vont tourner les regards vers moi, celui qui ont percé, et ils vont pleurer. Mais c'est des pleurs de repentance. Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Une source. Il dit, Dieu répandra sur eux un esprit de grâce et de supplication. C'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas simplement parce que Dieu sait, ah, ils vont tous être convertis. Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'ils vont tous être convertis, qu'ils vont être convertis. Non, c'est parce que Dieu va répandre sur eux un esprit de grâce et de supplication. C'est pour ça que je suis convaincu que Dieu est souverain, hein, même sur le salut, parce que sinon, il ne pourrait pas avoir une telle promesse, comme on lit en Romains 11, 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et ils seront sauvés. Pourquoi ? Parce que Dieu va déverser, comme il dit en Zacharie, sur eux un esprit de grâce et de repentance. Et c'est exactement sur ce que Dieu doit faire de nos jours pour que quelqu'un vienne à Christ. Comme Lydie en Philippe, où Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle reçoive ce message. Donc, il y a les Juifs, surtout, mais il dit quoi d'autre en verset 7? Il n'y a pas seulement une référence à ceux qui l'ont percé, mais à qui d'autre? Qui d'autre le verront? Et toutes, quoi? Les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc ça, c'est pas les Juifs, c'est forcément donc les païens. Les païens. Et je crois quand on lit la suite, qu'on ne peut pas le prendre comme une lamentation de repentance. Je ne pense pas. Parce qu'on voit dans la suite qu'il y a un endurcissement de ces nations contre Christ. Quoique, il y aura certains qui sont sauvés, mais Apocalypse 9, versets 20 et 21, nous donne un peu plus un aperçu de cela. Il dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc il y a tous ces fléaux qui tombent, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Donc on a une petite fenêtre sur leur cœur. Ils ne veulent pas se repentir malgré la colère de Dieu qui tombe sur eux. Et vous savez, on peut crier amèrement sans se repentir. En Apocalypse 6, versets 15 à 17, il dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves aussi et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Et il disait aux montagnes et aux rochers, quoi? Oui, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. C'est une image épouvantable. Imaginez la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc là, nous voyons, ils crient, mais ce n'est pas des cris de repentance. Ils veulent se cacher. Mais ils ne veulent pas venir vers l'agneau. C'est un peu comme Judas. Vous savez, il a été très amer. Il a pris son argent, il l'a lancé devant les chefs religieux. Il n'a pas voulu de cet argent. Et puis il est sorti, il s'est pendu, il s'est suicidé. Et la Bible est claire qu'il est allé en enfer. 2 Corinthiens 7, verset 10, parle en effet, « Il y a la tristesse selon Dieu » qui produit quoi? une repentance à quoi? Salut. Tant on ne se repent jamais, c'est-à-dire on regarde jamais ça. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? La mort. La mort. Et certainement, il y aura cette lamentation. La Bible dit que tout œil, enfin, que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce ne sera pas forcément de leur propre gré, avec joie, qu'ils vont le faire. C'est comme quand on est devant un ennemi même, mais on ne peut pas nier sa force et sa grandeur. La vraie tristesse nous tourne vers Dieu et nous tourne vers Christ. Si vous voulez savoir, est-ce que je me repens, est-ce que ma tristesse est une tristesse de repentance? Eh bien, si elle vous pousse vers Christ, oui. Puis regardez la réaction des croyants à sa venue. On écoutait Apocalypse cette semaine dans la voiture en allant à l'école. On essaye de parcourir le livre. Et un de mes enfants m'a posé la question, est-ce que Apocalypse c'est écrit pour nous faire peur? Bonne question. Mais quelle est la réponse des croyants? Qu'est-ce que vous voyez là, à la fin du verset 7? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit « Yes !» Amen. Ça, c'est Jean, je crois, qui le dit. C'est une affirmation en deux langues. D'abord en grec, et puis en hébreu. Parce que le « Amen » nous vient de l'hébreu. Donc, c'est une double affirmation. Oui, Amen. Et tout à la fin d'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, c'est Jésus parle, il dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alors, dites-moi, quelle est la réaction, la réponse des croyants? Ils ont les bras ouverts. Ils sont là en train de dire « Oui, viens, Amen, Alléluia, il arrive. » 2 Timothée 4, 8, c'est Paul, il est prêt à mourir. Et il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ils parlent ici de son deuxième avènement. C'est pas qu'ils aiment Noël, oui, ils aiment ça, mais ils aiment son avènement. Alors, est-ce que nous aimons ça? Je me rappelle, en tant qu'enfant, pensant, je marchais dans la rue, je pensais, mais si Christ revenait, ou s'il prenait donc l'Église avec lui, et j'avais des sentiments de peur en moi. Mais si nous sommes en Christ, nous devons avoir des sentiments de joie. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, il parle de ces païens qui sont venus à Dieu. Il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour quoi ? Attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Pour attendre des cieux son Fils. » Et ça, c'est une des bénédictions de la souffrance. C'est que ça nous tourne les yeux vers celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Je vois un changement, je regarde ma mère depuis une année. Je pense à moi, je pense, après que quelqu'un est parti comme ça, qui est près de nous, on pense plus au ciel. Je crois que quand il y a deux, un couple chrétien et un s'en va, il arrive un temps où l'autre, il est prêt. Il est prêt à partir. Et Dieu nous prépare comme cela pour partir. Et c'est une des résultats de la souffrance dans nos vies. Paul dit, si c'est sans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si notre joie, notre espérance est bornée à ma meilleure vie maintenant, il a dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est vraiment notre espérance. Le salut, nous l'avons, mais nous l'attendons. Nous l'attendons. Et puis, je pense que le verset 8 nous donne l'assurance de sa venue. Quelqu'un a dit, un prédicateur, il a dit, ça c'est la signature de Dieu. Il signe ici son nom. Ça, c'est très important. En France, il faut bien signer les choses. Et au verset 8, donc il dit, il vient. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est comme son sceau, le sceau divin, sur son tampon officiel. Ça se fera. Parce que, vous dites, mais c'est dans l'avenir. Oui, mais moi, je suis celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est-à-dire, je suis le Dieu de l'histoire. Il n'y a pas un moment dans l'histoire, si c'est dans le passé, le présent, l'avenir, où je ne suis pas déjà. Moi, je suis... L'avenir, c'est comme aujourd'hui pour lui. Le retour de Jésus, c'est comme une actualité pour Dieu. Tout est prêt. Et nous sommes dans les derniers temps, depuis le temps de Christ. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans ce que la Bible appelle plusieurs fois les derniers temps. C'est-à-dire, si on divise l'histoire en plusieurs sections, nous sommes dans la dernière section. Et il n'y a plus rien à faire avant son retour. Il peut venir à n'importe quelle heure. En fait, comme il dit ici dans le présent, il vient. C'est comme le train est déjà en marche. On ne sait pas quand il va arriver, mais il est déjà en route. Il est imminent. Et à nous d'être prêts. Alors, je vous demande simplement de prendre ces paroles à cœur. C'est facile de dire, oui, je crois que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Parce que la Bible dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et il dit en 1 Jean que nous ne voulons pas avoir honte, quoi, quand il revient. Alors je pensais à ça aujourd'hui, j'ai dit, si Jésus, voilà, si Jésus revient pendant que je suis en train de pécher, par exemple, je vais avoir honte, mais je ne peux pas être en même temps en train de pécher contre Christ et en train d'attendre sa venue. Vous voyez, on ne peut pas faire les deux en même temps. Parce que si j'attends sa venue et je pense à ça, eh bien, ça va changer ma vie. Et il dit, en Jacques, il a dit, il parle de nos relations et même de nos paroles les uns des autres, et il a dit, attention, le juge est où? Il est à la porte. Ça, c'est une image très, très forte. Hein? Et à la porte, là, j'ai dit, attention, mais il est là. Il est là. C'est pas comme s'il doit venir de Paris ou ailleurs. Non, non. Il est à la porte. C'est-à-dire, il faut un seul mouvement et il est dans notre présence. Et nous sommes dans sa présence. Jésus revient. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Donc, il vaut mieux vous préparer. Est-ce qu'Apocalypse est écrit pour nous faire peur? Eh bien, j'ai dit à mes enfants, si on est dans la bonne équipe, si on est du bon côté, on n'a aucune raison d'avoir peur. Il suffit de savoir que nous sommes en Christ. Alors, prions. Seigneur, merci pour ces promesses. Seigneur, nous savons que tu viens, que ta venue est proche. Et nous te demandons de nous aider à mettre nos vies en perspective. Et de toujours garder un œil fixé sur ton retour. Et que nous soyons prêts, qu'il n'y ait personne dans cette salle qui se trouve dans ce jour-là sans Christ. Il n'y ait personne même parmi nous qui auront à rougir de honte à cette seconde quand nous réalisons que c'est maintenant l'heure. Aide-nous à vraiment prendre ces vérités à cœur et que ça soit pour nous une source de joie. Nous voulons dire oui, amen, Seigneur. Viens, viens bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse.